Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Emmanuel Macron arrive à Washington aujourd'hui et pour trois jours de visite d'État, c'est le plus haut degré protocolaire. C'est la première visite de ce type organisée aux États-Unis depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Il faut dire que depuis leur première rencontre, les deux hommes affichent une entente personnelle dont aucun chef d'État ou de gouvernement étranger ne peut se vanter dans sa relation avec le président américain. Et pourtant, les deux hommes ont des personnalités très différentes et malgré leur alliance affirmée, les points de désaccord diplomatique ne manque pas entre la France et les États-Unis. Jusqu'à quel point peut-on être l'allié de Donald Trump ? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour tenter d'y répondre, deux invités nous ont rejoints dans ce studio. Anne Desine, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste des questions politiques et juridiques aux États-Unis, professeur à l'université Paris-Nanterre, et Martin Cancé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au German Marshall Fund à Paris. C'est une visite en grande pompe qui commence ce soir avec ce dîner à Mount Vernon, la résidence de George Washington. Dîner d'État le lendemain à la Maison-Blanche, discours devant le Congrès. L'administration Trump a mis les petits plats dans les grands. On sait que Donald Trump avait beaucoup apprécié son passage à Paris le 14 juillet de l'an dernier et il veut manifestement soigner son hôte, Anne Desine.
Oui, il avait été très très bien traité le 14 juillet et en fait la relation entre les deux présidents s'était déjà établie et elle a continué. Il y avait eu une première poignée de main. Et Macron, hier soir, expliquait...
La fameuse poignée de main, oui.
Oui, la première qui a duré 6 secondes, la seconde 29 secondes, et d'une main, il tenait Emmanuel Macron et de l'autre, Brigitte Macron. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il en a parlé avec humour hier soir dans l'interview de Fox News en disant, j'avais repéré la façon dont le Premier ministre japonais s'était fait avoir, entre guillemets, et il rajoute, je n'avais pas voulu faire partie de ses victimes. Mais ensuite, il a voulu rassurer l'intervieweur, Chris Wallace, en disant, mais c'était bien sympathique. Et je crois que, en fait, Trump, qui a toujours besoin d'être rassuré, flatté, etc., est content que Macron, à la différence de la chancelière allemande, ne le critique pas. Et puis que il est bluffé par Macron. Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'il a du respect. En anglais, ils disent « he has respect ». Mais il est quand même, oui, bluffé.
Il est étonné par ce que Emmanuel Macron a réussi à faire, en fait.
Et en fait, je pense que Emmanuel Macron, de façon plus ou moins... implicite, fait passer le message, on est quand même un peu pareil tous les deux. Mmh. Et donc, en fait, ça renvoie à Trump une image très positive. Et c'est pour moi ce qui explique d'assez bonnes relations, parce qu'il y a indéniablement de bonnes relations. Macron peut lui dire des choses.
Alors, Martin Cancé, est-ce que Donald Trump, là, à l'occasion de ce voyage, va essayer de... d'épater Emmanuel Macron, comme lui-même a reconnu avoir été épaté quand il est venu à Paris.
Sans doute, parce que Donald Trump adore ce genre de compétition, il veut toujours avoir l'air plus fort que son interlocuteur, mais je pense que c'est même plus qu'implicite, c'est devenu explicite pour Emmanuel Macron de dire qu'il y a beaucoup de similarités entre lui et Donald Trump. Hier, à Fox News, il le disait, nous sommes tous deux des outsiders du système,
Mavericks.
Nous avons cette similarité d'avoir gagné alors que tout le monde nous imaginait perdants, et nous retrouvons comme étant, voilà, encore une fois, hors du système politique de nos pays, à la tête de ces pays. Un autre élément pour Donald Trump, qui est un petit peu focalisé sur les chiffres, c'est la victoire d'Emmanuel Macron à plus de 60%, malgré le contexte, malgré évidemment les péripéties de la campagne française. Pour lui, ça l'a marqué. Et c'est quelque chose qui compte quand Emmanuel Macron se tourne vers Donald Trump. Et un dernier point, et même sans faire de la psychologie facile, Emmanuel Macron a un avantage par rapport à Theresa May et Angela Merkel, c'est que c'est un homme et que pour Donald Trump, c'est assez difficile de gérer pour l'instant ses relations avec ses homologues féminines.
Alors on le sait d'ailleurs, je reviens sur la victoire d'Emmanuel Macron et la façon dont elle a été perçue par Donald Trump. On sait que Donald Trump, il l'a dit, il a regardé toute la soirée électorale française avec ce qui s'est passé au Louvre ensuite et il a félicité directement Emmanuel Macron parce qu'il avait trouvé ça fantastique devant sa télévision. Quoi.
C'est un... Ah bah, il est grand consommateur de télévision, mais c'est vrai que c'est intéressant. Il a été là aussi extrêmement bluffé par la cérémonie au Louvre. Il est quand même un petit peu parmi toutes les caractéristiques, sans entrer effectivement dans la psychologie de bazar. Il est narcissique, etc. Il est un peu mégalo. Et l'entrée en fonction d'Emmanuel Macron était quand même quelque part un petit peu mégalomane.
Alors, on le disait, ils ont des personnalités très différentes. Pas le même âge, pas la même histoire personnelle, pas la même formation. Et pourtant, ils affichent une grande proximité. Alors bon, est-ce que ça vous a surpris au début ? Est-ce que ça continue à vous surprendre, Martin Cancé ?
Au niveau personnel, oui, absolument. Mais je n'avais pas forcément imaginé quoi que ce soit, ne connaissant pas leur caractère personnel. Au niveau politique, par contre, il y avait de bonnes raisons de penser que le lien fort qui avait été créé sous Obama trouverait des continuités avec Donald Trump. On avait vu dans la première administration, les premiers choix de Donald Trump, l'idée de s'entourer notamment de généraux et de gens qui venaient du militaire américain. Et pour les Français, c'était plutôt un bon signe, parce qu'on avait depuis plusieurs années un très bon lien avec le Pentagone et les gens de ce côté-là pour la relation franco-américaine. On avait également, sur la thématique clé du contre-terrorisme dans la campagne de Donald Trump, un certain nombre d'échos aux priorités françaises. Donc il y avait des raisons de penser qu'on trouverait une continuité. Après, évidemment, cette relation personnelle entre les présidents, je pense que personne ne pouvait l'imaginer.
Anne Desine, je vous ai vu un peu hésiter là quand vous avez entendu cette histoire de généraux.
Je ne suis pas sûre qu'en France nous soyons ravis qu'il y ait tant de généraux quand même.
Pas dans la population, mais auprès
justement. Enfin, je veux dire, le principe d'une démocratie, c'est qu'a priori, il n'y a pas trop de généraux et que même la guerre doit être entre les mains des civils et non pas des généraux. Je pense qu'il est impossible que la France n'ait pas des relations avec les États-Unis. C'est le constat qu'a fait Emmanuel Macron. Et comme c'est un homme extrêmement intelligent, peut-être un peu calculateur, il a vu ce qu'il fallait faire pour qu'il y ait cette relation. Mais ce qui a quand même beaucoup changé, c'est qu'à l'époque d'Obama, l'interlocuteur qui était en l'occurrence une interlocutrice, c'était justement Angela Merkel. Obama lui téléphonait toutes les semaines. Et là, c'est changé. Celui qui représente l'Europe, ce n'est plus la chancelière allemande, c'est le président Macron, c'est la France. Alors c'est vrai que la Grande-Bretagne, par définition, est sortie de l'Europe et que l'Allemagne, je pense qu'il y a trois facteurs. Le fait que la chancelière soit une femme, ça n'a pas aidé. Mais il y a aussi le fait qu'elle l'a beaucoup critiqué et que M. Trump a du mal à supporter la critique. Et alors, ce qu'il y a de curieux, c'est que je pense qu'il y a une chose sur laquelle le président Macron a réussi à faire un tout petit peu changer Donald Trump, non seulement sur la place de la France, ça c'est grâce au 14 juillet, mais aussi sur le rôle de l'Europe et le rôle de l'Europe comme un allié nécessaire, indispensable pour les États-Unis.
Est-ce qu'il y a, Martin Cancé, une volonté de faire perdurer la tradition de l'alliance franco-américaine, hein, la France est le premier allié historiquement des États-Unis, malgré les divergences, malgré les fluctuations de l'histoire, on a voulu s'inscrire dans ce mouvement historique ?
Bien sûr, mais il n'a jamais été question de rompre avec cette histoire-là. À l'automne dernier, lorsque la France publiait sa revue stratégique, les États-Unis étaient qualifiés d'alliés fondamentaux. À Davos, le président Macron a parlé d'un allié indispensable. Cette rhétorique-là, on l'a entendue depuis plus d'un an. Et de toute façon, il n'était jamais question, même après l'élection de Donald Trump, de rompre avec cela. Ça a été encore un des messages clés de l'Élysée pour préparer ce voyage, d'ailleurs, cette visite d'État, c'est de parler de cette longue tradition franco-américaine, de parler de paix, de parler de valeurs. Évidemment, ce dîner dans la maison de George Washington va permettre de rappeler cela. Donc ça, c'est un fait. Ce qui est intéressant à court terme, et ça, je suis tout à fait d'accord, c'est cette possibilité de retrouver la France au cœur du jeu transatlantique, ce qu'était véritablement la chancellerie sous Obama et Merkel. Et aujourd'hui, quand il faut appeler l'Europe, on appelle plutôt Paris.
Mmh. Alors, est-ce que, Anne Desine, pour vous, il y a une volonté d'Emmanuel Macron d'être celui qui garde les États-Unis dans le multilatéralisme ?
Je pense que... Alors, c'est vrai que ça devient dangereux de prédire quoi que ce soit. Mais enfin là, j'imagine ce que peut-être le président Macron va dire devant le Congrès. Devant le Congrès, je pense que le message, ce sera le multilatéralisme. Sur Fox News, il a bien insisté sur les alliés. Quand il a dit, est-ce que l'accord avec l'Iran est parfait ? Non, il n'est pas parfait. Mais nous n'avons pas de plan B. Et c'est important que les alliés, nous restons ensemble. Et je pense que au Congrès, où il y a beaucoup moins d'hostilité sur la totalité du Congrès à l'accord avec l'Iran, il va insister sur cette notion d'allié et sur le multilatéralisme.
Alors, oui, Martin Cancé.
Oui, c'est absolument l'une des priorités, la question du multilatéralisme, qui on voit à la fois sur la question iranienne, et puis il y a d'autres grands enjeux. Oui. Alors évidemment, on pense au climat.
Oui, là, il a été oublié sur Fox News. Hein.
Il a été totalement oublié. Je pense néanmoins que ça reste une des priorités de Macron lorsqu'il part avec Donald Trump. Et puis l'autre point de discorde où Macron a rappelé l'importance des alliés, c'est le commerce, où là, il l'a dit, nous ne pouvons pas imaginer une guerre commerciale entre alliés.
Alors, on va revenir là-dessus. On va peut-être d'abord parler de... Parce que finalement, moi, quand j'ai un peu préparé cette émission, j'ai fait le compte, il y a plus de points de discorde que de points d'accord. Le point d'accord, c'est la lutte contre le terrorisme, oui. Notamment en Afrique, Andésine.
Oui, mais ça, il est clair que la lutte contre le terrorisme, il y a un accord. Mais il y a effectivement beaucoup de points de désaccord. Sur le commerce international, je pense qu'il ne faut pas être très, très inquiet. Et à la limite... C'est peut-être un point sur lequel Macron céderait pour obtenir une recertification pendant 3 mois de l'accord.
L'accord nucléaire iranien. Alors, Martin Cancé, justement, on va développer un peu cette affaire de nucléaire iranien. Est-ce que c'est l'objectif principal d'Emmanuel Macron d'obtenir un sursis sur la
dénonciation. Il y a évidemment, mais pour revenir sur l'idée qu'il y a plus de désaccords que d'accords, il y a des désaccords de fond, mais il y a souvent des désaccords de méthode davantage que des accords d'objectifs. Par exemple, sur l'Iran, Emmanuel Macron reprend tout à fait l'idée que l'Iran pose problème pour deux raisons, en dehors du nucléaire, l'instabilité régionale et l'action de l'Iran dans sa région, et tout le programme balistique iranien. Et que ces deux thématiques qui sont toujours pointées du doigt par les Américains qui sont contre l'accord, pour dire cela n'est pas couvert par l'accord, il faut revoir cela. Emmanuel Macron reprend d'une certaine manière cette rhétorique en disant gardons l'accord, il est très bon sur le nucléaire, et faisons quelque chose d'autre, faisons peut-être un nouvel accord ou une nouvelle discussion sur ces deux autres thèmes. Donc c'est la méthode. Emmanuel Macron souhaite garder l'accord nucléaire, traiter les deux autres thématiques, alors que Donald Trump et un certain nombre de ses conseillers souhaitent tout remettre à plat.
Alors oui, cette façon de vouloir tout remettre en cause ou éventuellement de travailler à partir de l'existant, ça c'est une des complémentarités des deux hommes, Andésine.
Oui, mais je pense qu'il n'y a peut-être pas d'opposition fondamentale.
Ils font la même analyse, c'est ce que
oui,
vous nous dites.
Voilà, exactement, parce que en fait, en rajoutant peut-être un volet balistique à l'accord, peut-être que ça suffirait à obtenir que l'on gagne 3 mois. Et pendant les 3 mois, d'obtenir... Il y a un certain nombre de demandes de Donald Trump, d'exigences. Est-ce qu'on peut se rapprocher sur ces demandes? Et pour ça, on a besoin de 3 mois. Donc, moi, je vais jusqu'à parier qu'une chance sur 3, recertification pour gagner 3 mois.
Alors, on verra ce qui va se passer. C'est difficile de prendre des paris avec Donald Trump, vous l'avez dit vous-même. Cette question du nucléaire iranien sera donc une des questions principales. Les droits de douane, la menace d'une guerre commerciale entre les États-Unis et le reste du monde, ça peut être un élément de négociation, Martin Cancé aussi.
Finalement, pas forcément de négociation. Emmanuel Macron l'a dit, il ne négocierait pas avec un pistolet sur la tempe. L'Union européenne a été exemptée donc de ces nouveaux droits de douane sur l'acier et l'aluminium jusqu'au 1er mai. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment vu en Europe un travail, en tout cas je ne l'ai pas noté, un travail pour tendre la main vers Washington et trouver une forme de négociation, un compromis. Il y a vraiment deux blocs qui se font face et les États-Unis ne sont pas forcément dans une situation très avantageuse dans le sens où ils sont eux-mêmes en train d'entrer dans une forme de guerre commerciale avec la Chine et qu'il pourrait être un petit peu difficile pour eux de gérer deux conflits. Maintenant, Donald Trump l'a tweeté, il adore les guerres commerciales et elles sont facilement gagnables. Alors, est-ce que lui continuera tête baissée? On verra.
Comment vous voyez ça, Andésine?
C'est vrai que l'un de ses conseillers les plus proches en matière de commerce international a des vues quelque peu inquiétantes. Donc il est possible que Donald Trump s'obstine. Mais moi, si j'étais cynique, je dirais qu'en matière d'échange. Le problème, ce sont pas les droits de douane. C'est par exemple l'application extraterritoriale de la législation américaine. Parce que si on relie les deux avec l'Iran, ça veut dire que si Donald Trump sortait de l'accord iranien,
il pourrait mettre des sanctions aux entreprises françaises qui travaillent en Iran.
Non seulement on perd l'accord, mais ensuite ça veut dire que les entreprises françaises qui sont en train de préparer le terrain pour commencer à investir en Iran, c'est fini. Les enjeux et les dangers sont trop importants.
La question qui se pose également sur les droits de douane, c'est dans quelle mesure Paris et Berlin ont pu avoir une forme de division du travail, en sachant qu'Angela Merkel sera à Washington à la fin de la semaine.
Oui.
Et donc, pour les questions de l'acier et de l'aluminium, ça compte d'autant plus pour l'Allemagne. Angela Merkel ne va pas être reçue de la même manière qu'Emmanuel Macron, mais je pense que dans les priorités allemandes, ce sera très très haut.
Et il est probable que Emmanuel Macron et Angela Merkel en aient parlé lors de la visite du président français à Berlin la semaine dernière. Un autre point dont vous avez parlé, c'est l'affaire du climat et ce détournement de slogan que s'est permis Emmanuel Macron au moment de la sortie de l'accord de Paris de Donald Trump. Mais il avait eu la délicatesse, si je peux dire ça comme ça, de le prévenir avant. Je crois que Donald Trump, il a apprécié ce détournement de slogan et la façon dont il a été prévenu.
Oui, tout à fait. Je pense que c'était assez brillant, ce slogan, je dois dire. Et le fait d'avoir été prévenu, ça lui permettait de sauver la face, qui est toujours très important. Je pense que ce n'est pas une priorité du camp français pendant cette visite d'État. En revanche,
ça veut dire que ça pourrait être un élément de négociation, faire les frais d'autre chose, c'est ce que vous voulez dire?
Parce qu'en fait, bon, bien sûr, c'est gravissime ce qui se passe, parce qu'il n'y a plus d'argent fédéral, il n'y a plus d'impulsion fédérale pour lutter contre le réchauffement climatique. Et en particulier, le directeur de l'Agence de protection de l'environnement est en train de déréguler à tout va, et ça fait beaucoup de dégâts. Mais il faut quand même se rendre compte qu'il y a un certain nombre d'États, tous les États qui sont aux mains des démocrates, mais quelques autres aussi.
Et des grandes villes aussi, oui.
Des grandes villes. Et des grandes entreprises, y compris les compagnies d'assurance, qui ont bien compris que le réchauffement climatique, ça leur coûtait des milliards de dollars chaque année en incendie, rappelons-nous la Californie, en inondation, en ouragan, etc. Donc, l'avancée pour lutter contre le réchauffement climatique sera moins rapide, moins efficace, dans la mesure où l'exécutif va de l'autre côté. Mais je pense que la politique européenne, pour le moment, c'est on renonce, mais on essaie de travailler. Ce qui s'est bien passé d'ailleurs en France avec le sommet, quand Emmanuel Macron avait réuni tout un tas, justement, d'États, de collectivités locales et d'entreprises pour travailler dans ce sens-là.
C'est un des points d'ailleurs des Américains, c'est de dire que grâce au travail des États, la Californie, etc., les États-Unis en tant que pays sont davantage dans les clous de l'accord sur le climat qu'un certain nombre de pays qui sont encore tenus par l'accord. Oui. Donc, en effet, le fait de s'être retiré de l'accord au niveau fédéral est un signal terrible et aura des conséquences. Oui. Mais aujourd'hui, on a évité le pire grâce à cette diplomatie subnationale.
J'aimerais revenir sur un élément stratégique, c'est la Syrie. Alors, il y a eu les frappes communes des États-Unis et de la France en Syrie, mais pourtant, dans l'explication de texte entre Paris et Washington, on n'a pas dit exactement la même chose sur l'engagement américain en Syrie. Il y a eu un peu de friture sur la ligne, là, semble-t-il, Martin Cancé.
Oui, donc Emmanuel Macron a dit qu'il avait convaincu Donald Trump de rester. La Maison-Blanche a répondu que l'objectif de retirer les troupes était toujours l'objectif du président. Hier, donc à Fox News, Emmanuel Macron a essayé d'expliquer qu'il parlait davantage de rester de manière diplomatique et pas simplement militaire. Ce qu'on sait, c'est que Donald Trump souhaite se retirer.
Il l'a dit très clairement, et
d'une certaine manière, c'est assez cohérent avec tous les signaux qu'il a pu envoyer sur sa vision du monde depuis la campagne. Il faut rentrer les hommes aux États-Unis et sortir de ces conflits de pays où ils ne sauraient même pas les mettre sur la carte. Donc c'est cohérent. Ensuite, il y a la grande question, c'est qui influence Donald Trump dans l'administration. C'est la question depuis l'inauguration. On a des nouveaux arrivants avec John Bolton,
des faucons,
et puis avec Pompeo au State. On verra ce que eux décident de faire. Il y a toujours l'influence de Jim Mattis au Pentagone. Mm-hmm. C'est ça qui va se jouer, et je pense que Emmanuel Macron n'a pas beaucoup d'influence sur ce débat-là.
Oui, mais il a quand même dit quelque chose d'intéressant. Toujours dans cette interview de Fox News, il a dit « Mais si nous partons, nous laissons le champ ouvert à l'Iran ». Or, l'Iran, c'est le grand méchant pour Trump. Il faut se rappeler quand même que sa diplomatie, c'est Israël et l'Arabie Saoudite. Donc ça, c'est un argument qui peut-être porter un petit peu sur Trump.
Bah, merci beaucoup. Et puis, on a plus le temps d'en parler, mais il y a toujours cette ombre de la relation Bush-Blair. Hein. Je crois qu'il y a, c'est dans la tête de pas mal de monde. On en reparlera sans doute une prochaine fois. Merci à vous, Anne Desine et Martin Cancet, d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Charles Barré à la documentation et à la réalisation. Aujourd'hui, Anthony Bellard. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur notre site internet www.rfi.fr et sur les plateformes mobiles avec notamment l'application RFI Pure Radio, rubrique magazine. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux. Prochain débat mercredi. Bonjour chez vous.